Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Monsieur Pascal Wick. Bonjour.
Bonjour Yves.
Pascal, vous faites partie de la Ligue des droits de l'homme.
Exact.
Vous avez émis l'envie de parler de vos réflexions sur un conflit qui tient beaucoup l'actualité en ce moment. C'est celui d'Israël contre la Palestine, entre autres.
Oui, exact. Je vais vous dire un peu pourquoi, peut-être. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que en automne 2010, je suis allé faire une retraite socialement active en Israël-Palestine pour aider les Palestiniens qui ont des problèmes à en récolter leurs olives. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que juste de 2005 à 2010, j'ai vécu dans un monastère, pour dire, un centre de méditation en Grande-Bretagne, avec de longues périodes en silence. Une fois, je suis resté 9 mois sans parler. Et je me suis dit, j'avais envie de voir un peu qu'est-ce qui avait changé en moi suite à ces années dans ce monastère. Je me suis dit, le mieux, c'était d'aller dans un endroit où ça allait me tester. Donc, j'ai trouvé cette retraite socialement active qui me convenait parfaitement. Et je suis donc allé en Israël, puisque de toute façon, pour rentrer en Palestine, il faut passer par Israël. Et j'avais des amis déjà en Israël. Et puis, j'ai fait cette retraite socialement active, souvent logé en Israël, mais en allant la journée en Palestine et quelquefois restant plusieurs jours dans le même village en Palestine. Donc ça a duré 3 semaines. Et ensuite, moi, j'avais un billet pour retourner en Angleterre. Et je me suis dit, je vais retourner dans ce seul village où on a passé peut-être 4-5 nuits. Donc, j'ai connu des gens, etc. C'était quand même un peu plus... des relations un peu plus suivies que juste une journée dans les oliviers, etc. Donc, je suis retourné dans ce village. Et je suis resté là 10 jours, donc de ma propre initiative. Après, je suis retourné en Angleterre, mais le même hiver, etc. Et depuis donc cet automne 2010, c'est Edouard Saïd, pour ceux qui connaissent, qui disent une fois qu'on a mordu au conflit israélo-palestinien, on ne peut plus le lâcher. Et bien depuis cet automne 2010, je suis retourné de nombreuses fois en Israël et en Palestine. J'ai des amis et en Israël et en Palestine. Et j'y suis même allé cet hiver, l'hiver 2024. Donc, après le 7 octobre 2023, j'y suis allé au mois de février et mars. Et au total, depuis ces 2010, je suis resté plus d'un an particulièrement dans ce village palestinien, Deir Istia, au nord de Ramallah. Et autrement, je suis resté plus de 3 mois à Jérusalem, chez des amis israéliens. Je ne suis jamais allé à l'hôtel ou quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas mon genre. Et... j'ai travaillé toute ma vie dans l'agriculture, donc quand je suis là-bas, maintenant j'ai 83 ans, c'est pas la même chose, mais quand j'y étais, il y a 15 ans, j'étais encore valide. Donc j'ai travaillé à la fois à la récolte des olives, moi j'ai eu des oliviers en propriété même moi-même, et j'ai taillé des oliviers, j'ai planté des oliviers, j'ai fait des murs en pierre sèche, etc., retrouvé des terrasses et tout. Et puis j'ai vécu voilà, avec des gens au quotidien et... mon intervention du vendredi 29 novembre de cette année à l'espace social, il sera divisé en 2 parties. Une partie, c'est un historique qui part de l'année 1841, pourquoi je l'expliquerai, et puis qui arrive à l'heure actuelle. Et une deuxième partie sur mon quotidien avec des Palestiniens, avec des Israéliens, etc., et comment les situations que j'ai vécues sur lesquelles je vais témoigner. Voilà.
En introduction, vous disiez donc vous être retiré dans un centre de méditation. Cela a permis quoi pour vous? Et de vous armer mentalement contre quoi, par exemple, avant de vous rendre justement en Israël, Palestine?
Quand je suis parti dans ce centre de méditation, j'ai pratiqué des retraites dans des centres bouddhistes principalement. Pas d'une obédience plus que d'une autre. Hein. J'ai ici, dans le Vercors, ailleurs, en France, en Espagne, en Angleterre, régulièrement. Depuis maintenant, je ne sais pas, 35 ans ou un truc comme ça. Quoi. Autrement, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans l'agriculture, hein, que ce soit ici ou ailleurs, sur plusieurs continents. J'étais berger dans les Alpes françaises, j'étais berger dans les Pyrénées, j'étais berger dans la Sierra Nevada en Espagne, et j'ai été berger dans les Rocheuses, à la fois aux États-Unis et après au Canada. Au total, j'ai fait à peu près 20 ans de berger, quoi. Et je trouvais que c'était dans la logique des choses, un peu, d'aller me recueillir. Parce que berger, c'est un peu ça aussi, quoi. Et donc, voilà, j'ai été attiré par ça fortement. Et j'ai trouvé un endroit, surtout, où je ne payais pas. Ça, c'est, pour moi, c'est important. Je gagnais ma vie en travaillant dans cet endroit, je ne m'en rappelle plus, 4 ou 5 heures par jour. J'avais le logement, le couvert, etc., même habillé, etc. Et je m'engageais à méditer 4 heures par jour, et puis à d'autres choses dans lesquelles je m'engageais, etc. Et ça, c'est un mode de vie, voilà, pour moi, ça a été très important. Je suis parti d'Espagne, j'étais agriculteur en Espagne à l'époque, quoi. Et je me suis détaché de tous mes biens matériels. Je ne suis pas parti avec un compte en banque, hein. Je suis parti avec ce que j'avais dans la poche et un sac à dos, quoi. Et voilà, c'est tout une démarche. Et après, pourquoi j'ai voulu aller dans un endroit où il y avait des conflits? C'était pour me tester. Est-ce que ces 5 ans que j'ai passés là-bas, ça faisait que j'étais quelqu'un de plus sage? Quelqu'un qui s'emballait moins, quelqu'un qui pouvait pas résister, mais prendre une situation de conflit et peut-être faire que ça soit moins conflictuel, ce qui n'est pas toujours mon cas. Moi, je peux me mettre en conflit facilement. Voilà, peut-être moins maintenant, justement. Et la retraite pour laquelle j'y suis allé, le nom de la retraite, pour dire, donc c'était dans le but de récolter des olives, mais c'était « being peace », c'est-à-dire incarner la paix. Et ça me convenait parfaitement, voilà.
Pour vous, ça a été une nécessité de vous rendre donc en Israël et en Palestine. Est-ce que vous vous êtes intéressé un peu à ce secteur géographique, son histoire également, pour mieux appréhender cette entrée sur ce territoire?
Bien sûr. La première fois où je suis allé en Israël, j'avais 18 ans. Ça remonte avant 67, donc, hein, même. Et je me suis toujours intéressé à cette... Je me suis toujours intéressé, j'ai vécu 2 ans travaillant dans l'agriculture en Algérie, après la guerre d'Algérie, parce que j'étais impliqué contre la guerre d'Algérie en France quand j'étais étudiant. Et j'ai vécu 2 ans en Tunisie aussi. Donc il y a une relation avec le climat. J'ai vécu de nombreuses années en Andalousie, dans les montagnes de la Sierra Nevada, où j'étais aussi agriculteur et berger, quoi. Mais donc il y a même une... Voilà, il y a une relation physique, etc., avec la partie méditerranéenne. Et Israël-Palestine, ça fait partie de ça, hein, géographiquement, humainement, etc., en tout cas. Et ensuite, la deuxième chose, je me suis toujours intéressé à la politique du bassin méditerranéen. Et donc, la question palestinienne, pour moi, a toujours été importante. Elle ne date pas d'il y a 20 ans ou 30 ans. Elle date de beaucoup plus loin, pour moi. J'avais 18 ans, j'en ai 83 maintenant. Donc, ça fait un moment que je suis intéressé par la question palestinienne. Voilà.
Et donc, comment vous êtes-vous documenté? Il existe certainement des auteurs ou des lieux d'histoire qui puissent vous renseigner là-dessus. Et... En même temps, comment s'est passé ce premier passage sur ces terres?
Le premier passage, j'y suis allé principalement parce que j'étais intéressé par l'autogestion. Et les kibbutz, c'était un peu... Aussi, ça m'intéressait, quoi. Ça m'intéressait en tant qu'organisation sociale. Donc, je suis parti pour travailler dans un kibbutz, classique à l'époque, hein, je suppose. C'était en 60. Et pour vous dire, je suis arrivé en bateau à Haïfa. Et j'avais un contact que j'avais eu par une journaliste française. Donc, quand je suis arrivé là, le lendemain ou le soir, je ne me rappelle plus, j'ai téléphoné à cet homme qui m'a dit « On se donne rendez-vous demain à telle station d'autobus ». Et quand je suis arrivé, et quand il est arrivé, en fait, il était le chauffeur du bus. Mais moi, j'avais l'idée qu'il était le ministre du tourisme. Parce que la personne journaliste qui m'avait donné le contact, c'était en tant que ministre du tourisme. C'est pour vous dire l'ambiance qu'il y avait à l'époque, quoi. Voilà un homme qui incarnait pour moi quelque chose d'un peu idéal, quoi. C'était un ministre qui conduisait l'autobus. Pas mal, je trouvais. Bon, après, je suis resté un mois et demi dans ce kibbutz sur la frontière où je voyais Tulkarem. Mais c'était la frontière de 67, hein, avant l'invasion de la Cisjordanie par Israël. Et c'était un kibbutz dans lequel il y avait uniquement des sabras, c'est-à-dire des individus qui sont nés en Israël, contrairement à la majorité de l'époque qui n'était pas née en Israël. C'était voilà. Donc, c'était que des jeunes. Et vu que c'était sur la frontière de 67, il y avait des tours de guet. La nuit, il y avait des femmes aussi bien qu'hommes avec la Ouzi, etc. Bon, l'ambiance sur le kibbutz, c'était un kibbutz agricole. Hein. Il y avait des vaches laitières. Moi, je connaissais bien les vaches laitières à l'époque. Et Israël, c'était le pays le plus avancé au niveau vaches laitières. Quoi. C'était, pour vous dire, c'était des vaches à l'époque qui faisaient plus de 10 000 litres de lait par an, quoi, hein, en lactation. Et puis, j'ai travaillé dans des champs de coton. J'ai travaillé à ramasser du raisin de table. J'ai travaillé à couper des bananes, les dauphins, pour que les autres naissent, là, etc. Bon, l'ambiance m'a plu. On a fait des voyages avec les camions du kibbutz. On s'est fait canarder à Jérusalem parce qu'on conduisait un jour de sabbat. Et puis après, j'ai loué, une fois que j'avais fini mon temps au kibbutz, on était payé, je me rappelle, je crois, $2 par jour, nourri, logé de nouveau, etc. J'ai loué une moto et j'ai fait un tour dans Israël, dans le nord, parce qu'avec le camion du kibbutz, on était descendu jusqu'à Eilat, donc je suis pas allé là-bas. Et là, je suis rentré en contact avec des Palestiniens, en fait. Et je me rappelle très bien, un jour, c'était, je crois, à Nazareth ou un truc comme ça, et les Palestiniens qui m'ont invité à manger dans leur maison et tout. Moi, j'étais actif en 1956, quand la France, l'Angleterre et Israël ont fait la guerre à l'Égypte. Et je n'étais pas du tout pour la France ni Israël, etc. J'étais beaucoup plus pour Nasser. Et là, on a fêté, dans cette famille israélienne, on a fêté Nasser. Et j'ai eu des Israéliens qui m'ont dit « Mais tu peux faire ton service militaire en Israël. » C'était en 67. Non, c'était en 60, avant 67. Et voilà, c'était l'idée qu'on était contre les Arabes. Moi, je n'étais pas contre les Arabes, quoi, au départ.
Il y avait déjà cette époque-là, donc je vous reprends sur cette dernière phrase de combattre les Arabes. Mais
c'était la guerre d'Algérie.
Dans le quotidien en Israël, c'était plutôt calme entre les peuples, les cultures, où il y avait déjà un peu de tension.
Non, mais je veux dire... Les Arabes habitant Israël à l'époque, ils étaient sous un régime, ça a changé à l'intérieur d'Israël, ils sont sortis de ça, mais c'était un régime d'occupation pour dire. Hein.
Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous retrouver sur ces terres ? Qu'est-ce qui est, au fond, au-delà même de cet aspect kibbutz, de travailler la terre ou de l'olive, ou, voire même berger peut-être, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y être ?
Je crois que c'est ce que je vous ai dit au début, c'est me retrouver dans une situation sociale, politique, etc., très tendue. Guerre à basse intensité, si on veut dire. Et après avoir passé ces années et autres, parce que c'est une voie que j'essaye de pratiquer, de pouvoir incarner là, quelque chose qui représente la paix quand même. Ce qui ne me semblait pas évident. Et j'ai eu des moments où je me suis senti que non, je n'incarnais plus la paix. Mais bon, dans l'ensemble, et on était soutenus parce qu'on était un groupe, on était 15 personnes avec cette même idée, quoi. Donc c'est ça qui m'a beaucoup attiré, quoi, à cette époque.
Et au niveau relationnel, que ce soit palestinien ou israélien, vous étiez en bonne entente, il n'y avait pas de recommandations, je dirais, de l'un ou de l'autre vis-à-vis de l'adversité, par exemple.
Ben, moi, en tout cas, j'ai eu des très bons contacts avec des Israéliens, que j'ai toujours. Oui. On s'écrit, quand je vais là-bas, j'habite chez eux, etc. Et puis j'ai eu des très bons contacts avec des Palestiniens avec qui je suis toujours en contact. Après, je me suis trouvé dans des situations où non, ça ne se passait pas bien, quoi, hein, c'est sûr. Notamment à Hébron, notamment une fois où ce qu'on appelle les colons, je ne sais pas comment on les appelait autrement, mais bon, les juifs qui sont en Cisjordanie et qui venaient nous empêcher de récolter les olives. Donc, ce n'était pas facile, quoi, je veux dire. Mais quand même, il y en a qui étaient armés, hein. Ça, c'est surtout les Palestiniens là, qui font qu'on est nous, on est des internationaux, et c'est le chef de famille palestinienne, parce qu'on normalement on récolte avec une famille, qui nous dit comment procéder pour se sortir tranquillement de cette situation. Quoi.
Et donc en 2010, vous êtes revenu en Israël. Qu'est-ce qui a été pour vous tout de suite, qu'est-ce qui vous a frappé tout de suite au niveau de cette ambiance?
Moi, quand j'y suis allé en 2010, c'était au mois d'octobre 2010, la première chose qui m'a frappé, mais bon, ça, c'est pas grand-chose, c'était l'entrée dans un pays, quand on arrive dans un pays, qu'on est à l'aéroport, qu'on sort de l'avion, qu'on passe les formalités policières et douanières. C'était j'ai dû préparer ça. Parce qu'on m'a posé des questions bien précises. Où est-ce que vous dormez ce soir? Pourquoi là? Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous venez? Voilà.
C'était très différent par rapport à 1960. L'accueil était très différent.
Moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir un problème. Je suis arrivé en bateau d'abord. Peut-être c'est différent, je ne sais pas. Mais quand je suis arrivé en 1960, d'abord, je n'avais même pas 20 ans. Et ça fait loin, quoi. Et j'ai pas de souvenir précis de formalités douanières, quoi.
Les discours de personnes ont-ils évolué aussi entre 2010 et sur les 15 années
Entre 2010 et 2024.
Oui. Est-ce que les mentalités ont évolué, régressé même, peut-être?
Je sais pas si elles ont
par rapport à la situation.
Évoluer dans le sens où il y a eu du changement. Je ne sais pas si c'était positif ou négatif, mais il y a eu du changement. Quand je suis arrivé, mettons la dernière fois où j'y suis allé, en mois de février, là, j'étais invité à... D'abord, on arrive à Tel Aviv, pour dire quelque chose près. L'aéroport, il est à côté de Tel Aviv. Et j'étais invité à Tel Aviv, dans un appartement qui sert de centre de méditation pour un groupe bouddhiste. Et là, moi, j'ai pu dormir, etc. Et il y avait... tous les matins, il y avait un groupe qui était différent de chaque... on peut louer, on est une association bouddhiste, on peut louer le bâtiment pour faire un enseignement, une retraite ou peu importe. Donc moi, je suis resté une semaine dans cet endroit. Tous les jours, donc, j'ai vu un groupe le matin, un groupe avec qui j'ai médité, avec qui on a... Ils ont fait l'effort de faire que ce ne soit pas en hébreu, mais en anglais. Souvent, pas toujours. Mais donc, j'ai participé... Quand on médite pendant 45 minutes, mettons après, souvent, il y a un ressenti, on parle de ce qu'on a sur la conscience, enfin, ben voilà. Et là, c'était au mois de février 2024, donc c'est sûr que le 7 octobre a été souvent mentionné. Même si c'était en hébreu, je comprenais bien que c'était sur le 7. Donc, il y a eu des changements, bien sûr. Il y a eu une radicalisation des mentalités. Ils sont en situation de guerre plus encore qu'en 2010.
Et pour ce qui est de l'alimentation également, est-ce que vous avez constaté une évolution ou peut-être des difficultés de plus en plus croissantes d'une nourriture meilleure?
Pas en Israël, non, je n'ai pas senti de problème.
En Israël ou en Palestine? Alors, voilà. Vous étiez sur les deux territoires,
En Palestine, Voilà, pour moi, entre la dernière fois que j'y suis allé en 2021, et quand j'y suis retourné en 2024, là, surtout dans le village, mais je veux dire, oui, il y a une grosse différence. Il y a des paquets qui sont fournis régulièrement, de paquets de nourriture, des cartons, je veux dire, qui sont fournis régulièrement, notamment par des Israéliens, etc. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, ou des organisations internationales, etc., pour que les gens aient de la nourriture. Dans le village où je suis, c'est comparable à Die, c'est 4000 habitants, ça ressemble pas du tout à Die et tout, il n'y a pas les facilités qu'on a ici. Mais il y a des gens qui ont des problèmes pour se nourrir en ce moment, c'est clair. Beaucoup de gens travaillaient en Israël, hein, où ils gagnent un peu plus. Mais depuis le 7 octobre, les Palestiniens ne peuvent pas retourner, ne peuvent pas aller travailler en Israël.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7,
FM.
Alors, je reviens sur ce 7 octobre pour vous. Qu'est-ce que ça a été?
Oui, il y a tellement de choses, je veux dire. Mais je pense que ce qui domine, c'est savoir que le conflit va augmenter, qu'il va y avoir encore plus de souffrances, de morts, etc., d'un côté comme de l'autre. Ça, c'était évident. Mais en même temps, et ça, c'est une constante de ce qui s'est passé depuis la déclaration Balfour. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça, c'est 1917. Les Palestiniens sont dans toutes les négociations et les résultats des négociations, les Palestiniens sont complètement ignorés. Et là, ce qui se passait avant le 7 octobre 2023, de nouveau, les accords Abraham, etc., les Palestiniens, ils n'avaient rien à faire là-dedans. Donc voilà.
Mais il y a aussi d'évolution. Quel est le regard, enfin, je ne sais pas si vous avez échangé sur quoi précisément avec les personnes que vous avez rencontrées, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, mais quel est leur regard, leur sentiment sur cette situation vis-à-vis des personnes au pouvoir qui ont amené cette tension?
Est-ce que c'est les personnes au pouvoir qui ont amené cette tension?
Ouais. C'est quand même Israël s'est doté d'un gouvernement de plus en plus à droite, voire d'extrême droite. Ça n'a certainement pas amélioré les relations, j'imagine. Est-ce que c'est le fait d'une minorité au pouvoir au détriment d'une majorité qui soit laisse faire ou alors est complètement désarmé par cette situation, que ce soit en Israël ou même par les Palestiniens avec le Hamas?
Ça, c'est un problème de base que je ressens beaucoup ici en France. C'est que. Et ce qui pourrait faire que ça change un peu, c'est que l'État français reconnaisse l'existence de l'État palestinien. Ça ferait que l'information déjà circulerait un peu plus. Parce qu'ici, c'est le blackout hein, sur les informations. Et la façon dont on présente les choses, ça implique déjà qu'on est dans un certain sens plutôt que dans un autre. Quoi. Je ne pense pas que... Il y a une tribune du New York Times d'avant la Deuxième Guerre mondiale qui a été signée par Einstein, Hannah Arendt, etc. et qui demande au gouvernement américain de l'époque de refuser l'entrée aux États-Unis de Menachem Begin parce que c'est un terroriste. Est-ce que... Ça, c'est en 1900... Fin des années 30. C'est quand les Israéliens se battaient contre l'Angleterre pour les faire sortir. Donc, je veux dire, c'est extrémiste. Je veux dire, c'est ni extrémiste ni... C'est la logique de ce qu'est cette situation, quoi, je veux dire.
J'avais reçu un groupe de personnes de Paris qui justement était aussi inquiet hein, par cette situation, mais qui disait malgré tout que c'est par les armes des fois qu'on peut se faire entendre. Et donc, est-ce que ça, c'est ce cas de figure qu'on peut observer à l'heure actuelle Le 7 octobre, pour moi, ça a été un choc. Au vu des victimes qui ont été des victimes de leur âge, de leur jeunesse, qui n'avaient pas forcément un parti pris dans l'histoire. Et est-ce que ça nécessite parfois de la cruauté pour pouvoir se faire entendre ?
Et vous parlez des victimes du 7 octobre ?
Après, on reviendra aussi sur ce qui
se
passe.
Non, mais ce que je veux dire, il y a eu des victimes le 6 octobre. Il y a eu des victimes le 5 octobre. Ils étaient aussi jeunes que d'un côté que de l'autre.
Il y en a depuis des années.
Il y en a.
Là, le choc était qu'il y avait plus de 1200 personnes tuées sur une seule journée.
Ouais, c'est sûr. Je veux dire, il y a une lettre du maire de Jérusalem qui écrit à Theodor Herzl. Vous voyez qui c'est, Theodor Herzl ? C'est le conceptualiseur du sionisme. Et c'est une lettre du maire de Jérusalem à l'époque. Donc ça, c'est en 1900... Peut-être juste avant la guerre, Première Guerre mondiale, 1914, quelque chose comme ça, peut-être. Et c'est une lettre où ils vendent toutes les qualités des Juifs, etc. Mais le maire de Jérusalem explique à Herzl que ce qui implique le mouvement sioniste, ça va créer de la violence, forcément. Parce qu'il y a des gens qui vont être expulsés. Et ça, voilà, évidemment que les gens sont expulsés, c'est une situation de violence et ça va demander une réaction violente aussi. Voilà, c'est de ça qu'il faut sortir. Donc il faut prendre la situation comme elle est aujourd'hui et faire que voilà, ça soit paisible et qu'il n'y ait pas une oppression d'un côté sur l'autre ou de l'autre sur l'un. Ce que je trouve toujours, c'est quand on me dit « mais qu'est-ce que tu penses ici ?» Surtout quand je suis là-bas ou en Israël ou en Palestine, je dis qu'il suffit de voir qui est opprimé. Qui dit à l'autre « Sors de ta voiture, je vais contrôler si... » Qui dit à l'autre « Non, aujourd'hui, tu passes pas. » C'est toujours les mêmes. Il y a un côté qui opprime l'autre. Il faut sortir de ça, autrement, ça, il n'y a pas de sortie, quoi.
Et en réaction donc, de ce 7 octobre, l'armée israélienne est entrée en conflit sur la bande de Gaza par des bombardements intensifs au point de mettre à mal la population, de la désorienter, de la rendre complètement démunie de toute chose. Est-ce que pour vous, c'était une proportion évidente ou alors qui surpasse peut-être tout ce qu'on pouvait prétendre ou espérer?
Pour un Gazaoui, ça n'a pas commencé le 8 octobre. Hein.
Non, mais
je veux dire, les bombardements, là, c'est pas nouveau, ça.
Oui, d'accord. Mais là,
ça n'a pas duré autant de temps.
Est-ce que là, ce sont des populations qui sont atteintes par dizaines de milliers et qui ne sont pas... Pour vous, est-ce que ce sont des proportions qui dépassent l'entendement ?
La réalité est plus que ce qu'on peut imaginer. C'est pas par rapport à ça, je dis, mais c'est souvent comme ça. Voilà, c'est pas nouveau ça non plus. C'est bon.
Alors, comment ça va dire se dérouler cette conférence vendredi 29 à la salle communautaire de l'espace social et culturel à quelle heure d'ailleurs?
À 19h.
À 19h. Et donc, comment va se dérouler je crois que vous proposez ça en deux parties.
Oui, grosso modo en deux parties. Il y aura une partie historique, voilà, un peu sur l'Empire ottoman. Qu'est-ce que ça représentait la Palestine dans l'Empire ottoman? Ensuite, qu'est-ce que ça a représenté au début de la Première Guerre mondiale? Parce qu'il y a eu des accords entre les Anglais et les Arabes, des accords entre les Anglais et les Français, etc., qui ont eu des implications importantes sur la Palestine. Comment est-ce que c'était ensuite la Palestine a été sous mandat? Ça, c'est la Ligue des Nations qui établit ça suite à la chute de l'Empire ottoman. Et voilà. moi, je continuerai jusqu'à après 67, quoi. Et puis après, j'aurai une deuxième partie sur le quotidien, hein, avec des photos, avec des explications, pour qu'on comprenne ce qui se passe, etc. Des réflexions, enfin des trucs comme ça. Voilà. Ça, ça sera sur l'agriculture, comment se passe une journée. Ça sera avec des amis israéliens qui viennent dans ce village où je suis. Ça sera des amis israéliens en Israël, quand je suis avec eux en Israël. Moi, j'ai suivi des cours même à l'Université hébraïque de Jérusalem sur l'histoire de, voilà, du judaïsme. Je suis intéressé par le judaïsme depuis longtemps. Ouais.
Vous-même êtes membre donc, de la Ligue des droits de l'homme. En tant qu'adhérent à ce mouvement, quelle réflexion vous avez sur cette situation ?
Je crois que c'est beaucoup un problème de droit, cette situation. Il y a des... les droits qui dominent sont les droits internationaux, reconnus comme... etc. Donc c'est beaucoup un problème de droit avant tout. Et la Ligue des droits de l'homme, elle est faite pour faire que les droits soient respectés aussi bien localement qu'internationalement, quoi. Il y a une fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, etc. Donc je trouve que c'est une organisation qui s'adapte bien et qui a comme vocation à s'intéresser à ce problème, quoi. Je vois qu'aujourd'hui, la Cour internationale de justice a un mandat d'arrêt contre plusieurs personnages. C'est le droit qui avance un peu. Le droit, il est basé sur un sens éthique, quand même. Et je ne dis pas qu'ensuite ça va se réaliser, mais rien que le fait qu'une décision soit prise par un organisme international de droit, ça a des répercussions sur comment les gens pensent, comment les gens réagissent. Je pense que ça va faire poser des questions à certaines personnes dans des situations bien différentes, mais qui sont impliquées là. Moi, beaucoup, quand je travaillais pour récolter des olives avec des Israéliens, beaucoup m'ont dit, notamment avec une organisation, les Rabbins pour la paix, parce que j'ai travaillé avec eux aussi, beaucoup d'Israéliens me disaient « Il faut que ça soit à l'extérieur qu'on nous mette la pression. Ça ne va pas venir de chez nous. » Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, j'espère. Mais je pense que ça a un rôle. Et là, de l'extérieur, que ça soit renforcé par une décision de la Cour internationale de justice, ça a du poids, je trouve. Et ensuite, ça aura du poids, mettons, si un des personnages qui a un mandat d'arrêt sur sa tête va dans un pays qui est signataire et qui n'applique pas la loi, ça met aussi le doigt sur ce pays, qui pourrait être la France, par exemple.
Lors de votre dernier passage en Israël ou Palestine, est-ce que vous avez rencontré des Palestiniens qui s'entendaient bien, qui étaient amis avec des Palestiniens ou des Israéliens? Ou alors il y a une barrière qui s'est...
Non. Quand je suis parti de Tel Aviv...
Il y a toujours un désir de paix quand même.
Quand je suis parti de Tel Aviv, c'était un samedi, un jour de sabbat, et je suis monté dans une voiture, ce sont des Israéliens qui m'ont emmené dans le village où ils allaient passer une journée pour travailler. C'était des Israéliens. Quand je suis revenu, c'est un ami israélien de longue date qui était venu au village où je suis, à Deir Istia, pour faire qu'un journaliste israélien de Haaretz puisse venir et voir ce qui se passait sur une certaine terre. Et ça, c'était un Israélien qui était là. Non, il y en a. Je veux dire, c'est une toute petite minorité, mais il y en a. Et c'est quand même... ça compte beaucoup.
Pascal Wick, nous pourrons vous entendre donc la semaine prochaine dans cette conférence. Est-ce qu'il faut peut-être se signaler pour réserver une place ou comment se passe
Non, il suffit de venir, je pense. Ouais.
D'accord.
Je pense. Hein, je veux dire, ouais. Moi, je pense pas que...
Ouais. Vous prévoyez un temps de combien, à peu près, pour ce rendez-vous ?
Moi, je prévois un temps d'une demi-heure sur l'historique,
oui,
et d'une heure sur la partie témoignage.
Et peut-être aussi un échange
au-delà.
Ah oui,
après, bien sûr, un échange, bien sûr. Ouais.
Eh bien, Pascal Wick, je vous remercie beaucoup d'être venu sur RDVoix pour nous annoncer donc cette conférence qui aura lieu ce vendredi 29 novembre à la salle communautaire de l'espace social et culturel du Diwa. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.